wybaczaj. Się za niej Boże.
Na territoire de conversion est un des sujets les plus méconnus et les moins bien compris de tout le domaine de la pensée religieuse. De nos jours, plus que jamais, on a besoin de comprendre ce qu'implique une conversion selon la Bible. Si quelqu'un est véritablement converti à Dieu, il doit absolument l'être selon les conditions et la manière que Dieu a déterminées. L'homme a été amené à croire par un enseignement erroné qu'il peut fort bien se convertir à son Créateur selon différentes méthodes, selon différents moyens. Le livre des Actes pourrait presque être appelé le livre des conversions, car il en contient des milliers d'exemplaires. Durant la période que couvre ce livre de la Bible, des multitudes de gens se convertissent à Dieu. Et tout ceci a été relaté pour notre plus grand bénéfice, afin que nous puissions suivre le processus de ces conversions, arriver à goûter des relations particulières avec Dieu et bénéficier du pardon de nos péchés. Portons une attention particulière à la description de la conversion des premiers des gentils, c'est-à-dire de Corneille et des gens de sa maison. Quelqu'un peut être perdu sans en être du tout conscient. Le cas de Corneille nous le prouve. Rien ne permet de supposer qu'il se considérait comme perdu avant que l'ange ne lui dise d'envoyer chercher Pierre pour qu'il lui donne la marche à suivre afin d'être sauvé. Et on s'en rend particulièrement compte lorsqu'on sait que l'enseignement dont il avait disposé jusqu'alors était insuffisant pour qu'il réalise vraiment la condition spirituelle dans laquelle il se trouvait. De nos jours, nombre de gens qu'on peut qualifier de religieux, ainsi d'ailleurs que ceux qui ne le sont pas, sont inconscients quant à leur perdition. Et cela fend littéralement le cœur de ceux qui sont témoins de la situation. Il est intéressant de noter que Corneille ne s'offensa absolument pas lorsqu'on lui annonça qu'il avait à accomplir quelque chose pour être sauvé. Ce n'est certainement pas le cas de nombreuses personnes qui sont aujourd'hui même dans un cas similaire. Corneille possédait un excellent caractère. Et l'Écriture lui lance des compliments. Mais malgré tout cela, il avait à accomplir certaines choses pour posséder la vie éternelle. Cela nous prouve donc que la bonté ne suffit pas pour sauver un homme. Une bonne moralité ne sauvera personne. Et celui qui espère être sauvé par sa bonne moralité et sa bonté accorde sa confiance à une impossibilité absolue. Quelqu'un qui est sauvé doit nécessairement être bon, mais la bonté d'un être ne suffit pas à le sauver. Il ne fait aucun doute que Dieu a voulu que l'histoire de Corneille soit destinée à nous faire comprendre cette vérité frappante. Puisque Corneille était un homme pieux, dit la Bible, qui craignait Dieu avec toute sa maison, et que malgré cela, il devait faire quelque chose avant d'être sauvé, on peut raisonnablement conclure que les gens pieux doivent se convertir si leur religion n'est pas celle que Dieu agrée, accepte. On peut généralement dire que ces personnes sont en ordre vis-à-vis de l'Éternel, et qu'on doit par conséquent les laisser tranquilles. Mais telle n'est pas l'opinion de Dieu qui dit qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, c'est-à-dire la justice de Dieu, lui est agréable. Ceux qui sont coupables d'abandonner le commandement de Dieu, qui est juste, et d'observer la tradition des hommes, ou encore qui anéantissent le commandement de Dieu pour garder une tradition humaine, doivent se convertir à Dieu. Il est un fait évident que toutes les religions, même les différentes dénominations du christianisme, ne peuvent être justes aux yeux de Dieu. Celles qui sont dans l'erreur ont besoin de se convertir. En Matthieu, chapitre 7, verset 21, il est clairement spécifié, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Mais lorsque les hommes observent la volonté de Dieu, ils sont exactement semblables, religieusement parlant. S'il n'en était pas ainsi, le Créateur serait un Dieu de désordre. Il n'est pas possible que deux hommes fassent la volonté de Dieu, mais de manière différente. Dieu n'a donné qu'une marche à suivre pour se convertir, pour devenir un chrétien. Ceux qui suivent par contre les préceptes humains ne sont pas convertis, et le drame est qu'ils croient sincèrement l'être. Remarquons également que le Seigneur n'autorisa pas Corneille à obtenir sa conversion religieuse par une sorte de charme venant sur lui et lui faisant en quelque sorte sentir en lui-même un changement notoire. L'ange qui lui est apparu ne prononça aucune parole qui aurait pu lui faire croire que son âme était maintenant dispensa non plus le pardon. Le Seigneur avait déjà donné à des hommes la tâche de faire connaître à leurs semblables l'immense sagesse de Dieu, de la renoncer, les termes du salut, de les aider dans leur obéissance à Dieu. Et c'est pourquoi les apôtres devaient dire, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » C'est pourquoi Corneille reçut l'instruction d'envoyer chercher Pierre à un de ces vases de terre, pour qu'il lui annonce la marche à suivre pour être sauvé. La conversion de Corneille et de sa maison est vraiment quelque chose de méthodique, de très sensible, et qui possède de la même voie d'obéissance que nous retrouvons dans les autres conversions relatées par le Nouveau Testament. Pierre était un fidèle prédicateur de l'Évangile, et pourtant il ne dit nullement à Corneille qu'il peut choisir le moyen de son salut. Il ne lui dit pas non plus qu'il estimait que sa haute moralité pouvait être considérée comme une conversion en elle-même, et que par conséquent son salut ne pouvait être mis en doute. Non. Pierre lui annonce exactement, pratiquement mot par mot, ce qu'il avait dit à la foule le jour de la Pentecôte. Le salut s'adressant sans distinction aux juifs et aux gentils. La foi, la repentance et le baptême en constituant les conditions. Maintenant, Corneille doit tout simplement suivre cette voie. Les mêmes exigences, les mêmes absolues nécessités concernant l'obtention du salut ont été proclamées sans discontinuation depuis le jour de la première Pentecôte de l'ère chrétienne jusqu'au temps présent par des fidèles prédicateurs de l'Évangile. Enseigner autre chose serait trahir cette fidélité au terme de la Bible. En dépit de l'enseignement simple du Nouveau Testament, de nombreux exemples de conversion situés dans le livre des Actes et des hommes instruits enseignant la Bible dans nos églises, nombre de pratiques religieuses actuelles se trouvent être en contradiction flagrante avec les principes du simple exemple de conversion que nous venons de voir. Si le prédicateur d'une secte moderne contactait Corneille, comme l'a fait l'ange, il lui dirait probablement de continuer à prier en lui assurant que Dieu répondrait à ses supplications en sauvant son âme. Sur toute la surface du globe, on conseille à des milliers de gens de prier pour le pardon de leurs péchés, que c'est le seul véritable moyen de devenir enfant de Dieu. Le cas de conversion de Corneille n'a plus rien à voir avec les enseignements et les pratiques modernes. Lorsque Pierre arriva chez Corneille, il ne mentionna pas la nécessité de la prière. Personne ne dit à Corneille de prier pour obtenir le pardon de ses fautes passées. Le salut d'un étranger n'était nullement conditionné par la prière, pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, malgré les allégations de certains prédicateurs. Il n'existe d'ailleurs pas un seul exemple dans tout le Nouveau Testament permettant de soutenir une telle doctrine. L'exemple de la conversion de Corneille est également une négation de l'idée soutenue par nombre de sectes qu'on peut se sauver tout seul, au milieu d'un désert, ou seul au sommet d'une montagne. Le Nouveau Testament ne nous décrit pas un seul cas où quelqu'un se soit sauvé lui-même, loin d'une autre personne. Corneille a eu besoin d'un homme pour lui dire ce qu'il devait faire et pour l'aider à obéir au Seigneur. Il est souvent avancé que le baptême du Saint-Esprit est en réalité la conversion. Ou même une puissance qui sauve. Mais une fois de plus, le cas de Corneille s'oppose à cette idée. Si le Saint-Esprit avait été dans son cas, la puissance salvatrice, on ne voit pas du tout pourquoi l'apôtre Pierre serait allé jusqu'à lui, puisque le Saint-Esprit aurait pu très bien convertir Corneille en l'absence de quelqu'un d'autre. Au contraire, l'ange avait ordonné de faire venir Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Le baptême du Saint-Esprit n'a jamais sauvé personne, et il en sera ainsi pour toujours. Corneille n'était pas chrétien lorsqu'il envoya chercher Pierre. Bien qu'étant un adorateur de l'Éternel, il n'était pas sauvé pour autant. Il avait par conséquent besoin qu'on lui enseigne ce qu'il devait faire pour devenir enfant de Dieu. Le prédicateur d'une secte quelconque n'aurait rien pu enseigner à Corneille, car il pratiquait déjà tout ce qu'il aurait pu lui dire. Seuls de vrais prédicateurs de l'Évangile peuvent prendre des hommes tels que lui et leur dire ce qu'il faut faire pour être sauvé. Il fallait que Corneille sache quoi faire pour assurer son salut éternel. Sa connaissance de Dieu et des choses divines ne lui apportait pas cette information. Même la créature céleste qui est entrée en contact avec lui n'aurait pas osé le lui dire malgré la toute-puissance de Dieu. La parole de réconciliation, l'évangile de notre salut, avait déjà été confié à des hommes qui la proclameraient d'une manière très fidèle et à qui Jésus avait dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Depuis le jour de la Pentecôte, aucun être céleste, aucune voix ou aucune révélation spéciale n'a éclairé ou converti une seule âme. La conversion est confiée à la connaissance et à l'obéissance de l'Évangile de Christ. Voilà pourquoi Pierre a dû se rendre chez Corneille. Les conditions du salut requises pour Corneille étaient identiquement les mêmes que celles auxquelles s'étaient conformées les 3000 le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, la foule réunie autour des apôtres s'entendait dire de croire, de se repentir et d'être baptisé pour la rémission de ses péchés. Alors seulement, chacun de ces êtres sauvés furent ajoutés par le Seigneur à son Église. Pierre enseigna à Corneille de croire, de se repentir et d'être baptisé. Le contexte indique clairement la réalité de leur obéissance. Ces gentils furent sauvés, convertis à Christ. Leur cœur était vraiment purifié. Après avoir examiné ce simple cas de conversion, ne pensez-vous pas que nous aussi nous devrions obéir de la même manière que Corneille et que sa maison le firent? N'allez surtout pas penser que Dieu fait des exceptions et qu'il vous laisserait négliger sa loi pour être sauvé sans obéir à l'Évangile. Cette obéissance aux enseignements du Nouveau Testament apporta le salut à Corneille. La même chose pourrait vous arriver si vous obéissiez vous aussi. Le salut de votre âme en dépend. Y avez-vous songé? Songez sérieusement. Ce programme vous était offert par une méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Et je vous répondrai personnellement. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie sans aucun engagement de votre part. Méditation biblique, boîte postale 2398 31086 Toulouse, Cedex, je répète. Méditation biblique, boîte postale 2398 31086 Toulouse, Cedex.